Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la Radio Numérique Terrestre et en diffusion Internet. L'Agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Je vais avoir le plaisir de discuter aujourd'hui avec Irène Pereira. Irène Pereira est professeure des universités en philosophie de l'éducation à l'Université de Rouen. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'anarchisme, la gauche radicale et les pédagogies critiques. Elle participe régulièrement au site Grand Angle Libertaire. Son dernier livre a pour titre « Le libertaire » publié par les éditions Cavalier Bleu au mois de mai 2024. Bonjour Irène Pereira.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Eh bien, merci aussi de participer à cette discussion. Irène Pereira, pourquoi ce nouveau livre ?
Alors, bien déjà, c'était une commande des éditions Le Cavalier Bleu qui m'a commandé donc cet ouvrage sur le féminisme libertaire. Et j'ai accepté un peu ce défi d'écrire un ouvrage là-dessus parce que il me semblait que, en fin de compte, bien que parfois on trouve cette notion, effectivement, cette expression de féminisme libertaire, c'est pas une expression qui est aussi simple que ça à définir. Pour différentes raisons, et même historiquement, il me semblait que ce n'était pas une expression qui était si évidente en soi. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un travail intéressant à faire là-dessus, et en particulier un travail philosophique pour essayer de clarifier ce que voulait dire féminisme libertaire.
Le sous-titre du livre, c'est « Des apports pour une société radicalement féministe ».
Oui, alors effectivement, l'idée de radicalité, c'est une idée qui traverse pas mal mes travaux. Et radicalité, ça veut dire étymologiquement revenir à la racine. Et c'est donc essayer, c'est pour moi aussi une approche méthodologique qui consiste à essayer, au-delà peut-être des apparences et de la surface des choses, d'essayer de trouver les racines des problèmes sociaux. Voilà, donc d'où l'idée de radicalité. Qu'est-ce que c'est une société qui serait radicalement féministe? Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi hein, de l'ouvrage.
D'accord. Alors, le principe de parité est inscrit en France dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 avec pour but, je cite, de promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociétales. Ce dispositif, donc, de la Constitution, vous semble-t-il facilitateur d'une société féministe et a fortiori radicalement féministe?
Bah, c'est une question qui est un peu complexe.
Je peux vous donner. Moi, j'ai hurlé lorsque cette proposition a été amenée. Disons que c'était complètement ahurissant d'interdire aux femmes d'être plus nombreuses.
Oui, alors en même temps, cette notion, elle a été défendue, par exemple, par des personnes comme Christine Delphi, dans le sens où effectivement. Dans des organisations syndicales hein, où cet objectif de parité a été mis en place, il a permis effectivement d'augmenter le nombre de femmes. Donc après, ça dépend à quel niveau on se situe de la réflexion. Si on reprend l'histoire par exemple du syndicalisme révolutionnaire, le syndicalisme révolutionnaire se donnait comme tâche l'amélioration quotidienne, donc des objectifs réformistes et des objectifs révolutionnaires de transformation sociale. Donc en soi, cette idée de parité, elle n'est pas révolutionnaire et elle ne constitue pas un objectif du féminisme libertaire. Pourquoi? Parce que ce que j'explique, j'essaye d'expliquer dans l'ouvrage, entre autres, c'est que cette vision d'un égal accès des hommes et des femmes à des fonctions de pouvoir a été vue par les libertaires plutôt comme une conception libérale et non pas libertaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est une limite. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, là, c'est un pis-aller, mais en soi, c'est pas en soi une mesure qui soit révolutionnaire, ne serait-ce que parce que, effectivement, si on critique les élections, ce qui est le cas des mouvements libertaires, anarchistes, dans ce cas-là, l'idée d'accéder à des postes de pouvoir électifs ne va pas tellement dans la philosophie anarchiste. Donc, ce que j'ai aussi voulu montrer dans l'ouvrage, c'est ça, c'est des tensions entre, par exemple, parfois des mesures ou des revendications féministes, enfin qui sont revendiquées au moins par certaines féministes, et des idées anarchistes. Et là, c'en est un exemple. L'idée de revendiquer des postes de pouvoir, l'accès aux femmes à des postes de pouvoir électifs, ça ne colle pas tellement avec l'anarchisme.
Bien sûr. Alors, la couverture du livre, c'est ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari. C'est vous qui l'avez choisi? C'est votre éditeur qui vous l'a
Ça a été
suggéré?
consensuel. Ça illustre effectivement, déjà un slogan qui naît en Amérique latine, voilà, dans les milieux anarchistes des femmes, des militantes anarchistes hein, qui à l'époque ne se revendiquent pas forcément comme féministes. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi comme dans l'ouvrage. Et c'est après quelque chose qu'on va retrouver, un slogan qu'on va retrouver repris régulièrement en Amérique latine jusqu'à aujourd'hui. Et puis maintenant, on le voit adapté en France.
Qu'est-ce que le ou les féminismes?
Alors, les féminismes, c'est vrai que c'est plus juste de parler des féminismes parce que déjà, la question de la définition du féminisme, elle ne fait pas consensus au sein des féministes, que ce soit l'objectif ou même de savoir qu'est-ce qu'une femme. Voilà, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Dans l'ouvrage, je reprends une typologie qui est assez classique tout en étant discutable. De distinguer trois vagues du féminisme, et en particulier l'idée que trois vagues qui ne disparaissent pas, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on retrouve encore ces courants du féminisme, même si ils ont pu apparaître, par exemple le féminisme libéral, souvent on l'associe. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais il perdure encore aujourd'hui, c'est-à-dire un féministe qui revendique des libertés civiles et politiques égales pour les hommes et les femmes. Ensuite, on a des féministes qui sont plutôt effectivement, voilà, par exemple, d'inspiration marxiste. En particulier dans les années 70, c'est un courant qui est assez fort. Puis il y a encore d'autres, il y a des féministes de type post-structuraliste, hein, voilà, qui vont critiquer l'idée même d'un sujet femme unifié. Voilà, donc il y a une diversité de féminisme. Et en fait, une des difficultés pour parler d'un féminisme libertaire, c'est que quand on regarde les mouvements anarchistes et leurs revendications féministes ou les militantes féministes dans les mouvements anarchistes, leurs propos ne sont pas unifiés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu traversé des mêmes débats hein, qu'on va avoir dans le reste du mouvement féministe. Donc c'est un peu aussi la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il y a un féminisme libertaire ou est-ce qu'il y a plusieurs conceptions de ce que pourrait être le féminisme libertaire?
Pour continuer à expliquer le titre de votre ouvrage, qu'est-ce que vous entendez par l'anarchisme et qu'est-ce qu'être libertaire?
Bah, Anarchiste, c'est une notion, bah disons que la complexité de cette notion, bon, déjà, c'est que historiquement, au début, anarchie, c'est une notion qui est utilisée plutôt de manière négative comme symbole de désordre, au moins jusqu'à la Révolution française. Et il faut attendre Pierre-Joseph Proudhon pour qu'on ait une conception positive de l'anarchisme. C'est-à-dire comme un régime politique, enfin une forme d'organiser la vie politique sans État, hein, qui ne serait pas considéré comme une forme de désordre. Donc, bon, ça, c'est un premier point. Et le problème, c'est que cette définition-là, qui paraît au moins assez claire pendant un moment, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'auteurs anarchistes vont considérer que l'anarchisme, c'est une critique du principe d'autorité et que c'est un mouvement qui est plutôt lié au milieu socialiste. Cette notion, elle vient se compliquer à partir des années 70, en particulier aux États-Unis, parce qu'apparaît un courant anarcho-capitaliste qui revendique l'abolition de l'État, enfin des penseurs hein, qui revendiquent l'abolition de l'État, mais qui sont plutôt des ultra-libéraux du point de vue économique. Donc ça, c'est une première définition, première difficulté. Pour stabiliser ce que veut dire anarchisme. Et libertaire, on va avoir une double difficulté, puisqu'au début, libertaire et anarchiste, c'est deux choses qui sont équivalentes, hein, par exemple chez Joseph Déjac, mais qui invente le terme libertaire. Mais ensuite, bah déjà, on a un élargissement de cette notion, c'est-à-dire qu'on. Il arrive fréquemment dans la vie de tous les jours qu'on entende des personnes être qualifiées de libertaires, mais qui ne vont pas se revendiquer anarchistes, au sens où anarchiste, ce serait revendiquer l'abolition de l'État. Donc là, il y aurait quand même déjà quelque chose d'un peu plus clair sur la notion d'anarchiste, c'est-à-dire que les personnes qui vont se revendiquer anarchistes sont souvent quand même des personnes, il me semble, qui ont la particularité de revendiquer une abolition de l'État. Et toute la difficulté, c'est que dans les années 1970, aux États-Unis, apparaît un courant libertarien. Et libertaire et libertarien en Amérique, en anglais se disent de la même manière. Et on commence à voir arriver des confusions autour de cette notion. Les libertariens étant une sorte, pour simplifier, prenons une forme de libéralisme économique très forte. Bon, c'est vraiment ce que je dis très, très simplifié hein, sur les libertariens. Dans l'ouvrage, je rentre un peu plus dans le détail. Et donc, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'expression de féminisme libertaire, on va la trouver parfois accolée à des féministes qui militent dans des organisations anarchistes. Donc, féministe libertaire, ce serait un synonyme d'anarcha-féministe. Mais on va aussi le trouver parfois dans la presse généraliste comme en fait un synonyme d'une forme de féminisme en fait qui serait beaucoup liée à une forme exacerbée de liberté des mœurs, plutôt dans un sens en fait qui renvoie à ce qu'on va appeler aux États-Unis le féminisme pro-sexe et qui est aussi parfois revendiqué effectivement par des militantes libertariennes aux États-Unis. Donc en fait, ce qui m'a voilà interloqué, c'était cette espèce d'ambivalence autour de cette expression de féminisme libertaire. Et j'ai voulu voilà essayer de clarifier un peu plus les choses en essayant de distinguer mieux féminisme libertaire et féminisme libertarien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement le cas pour féminisme libertaire, hein, par exemple, si on s'intéresse à la culture liée à Internet, etc., bien souvent, il y a des idées qui vont être, on va dire, ah oui, ce sont des idées libertaires, voilà, autour de la liberté sur Internet, etc., alors qu'on voit qu'elles sont pour origine, en fait, les milieux libertariens américains. Donc, il y a des problèmes de traduction en français de cette notion qui est parce qu'il n'y a pas de véritable différence, enfin, lexicale en tout cas, et donc ça donne lieu à un certain nombre de confusions, quoi. C'est un peu un des points de départ de l'ouvrage, cette confusion qui s'est
D'accord.
instaurée et qui est assez récente en fin de compte. C'est ça que j'ai voulu montrer aussi. C'est-à-dire que c'est à partir des années 70 où cette confusion, elle commence à véritablement apparaître. Avant, les choses étaient plus claires.
En quatrième de couverture, vous proposez deux questions. Que peut apporter l'anarchisme au féminisme et le féminisme à l'anarchisme?
Oui, alors ça a été aussi un des points de départ de l'ouvrage et je me suis aperçue que en fait répondre à ces deux questions n'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que au début, il m'a semblé que l'anarchisme pouvait éclairer des points aveugles du féminisme. Alors, comme on l'a vu, la question de l'élection, par exemple, du recours à l'État, hein, c'est quelque chose qui est souvent critiqué. Que les anarchistes critiquent chez les féministes, qui serait le recours à l'État, c'est-à-dire demander une intervention de la police, de la justice, des peines de prison, etc., face aux violences faites aux femmes, par exemple. Donc c'est vrai qu'il existe toute une critique anarchiste de ce type de revendication, mais en fait on trouve aussi ce type de critique au sein du mouvement féministe, par exemple chez les féministes antiracistes américaines, qui ont beaucoup dénoncé l'idéologie carcéraliste du féminisme mainstream. Et donc ça c'était déjà voilà un aspect. Et par contre, disons qu'il m'a semblé que parfois, c'est vrai que le féminisme, en tout cas ces dernières années, avait peut-être plus apporté à l'anarchisme, disons que dans la mesure où le féminisme, c'est un ensemble de courants, hein, on l'a vu, de ce courant, qui ont connu un grand renouvellement d'idées, un grand bouillonnement d'idées. Et donc, ça a été un peu la difficulté de trouver dans quel domaine l'anarchisme apportait de nouvelles contributions ou pouvait vraiment éclairer des points aveugles. Ça a été un peu une difficulté. Je dirais qu'un des points que j'ai trouvé les plus probants, ce serait quand même sur la réflexion sur ce que pourrait être un autre régime politique. Autre que celui dans lequel on vit, c'est-à-dire dans une optique révolutionnaire. C'est-à-dire que, par exemple, on a des propositions féministes pour penser autrement la justice dans le cadre des sociétés actuelles, par exemple avec voilà, tout ce qu'on appelle la justice transformatrice, par exemple. Par contre, une question qui va se poser, c'est effectivement peut-être sur lequel les. Peut-être l'anarchisme, par exemple, les approches de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, etc. Peut-être sur la dimension plus politique de l'organisation politique, etc. C'est peut-être sur ce point-là qu'il y a un peu plus de réflexion anarchiste, on va dire.
Vous consacrez une partie de votre ouvrage sur les femmes anarchistes pour l'émancipation des femmes hors des pays d'Europe.
Oui. Bah oui, en fait, là aussi, c'est un point. Alors, je dirais que disons que là, je fais pas forcément œuvre d'invention, mais plutôt de synthèse, hein, de choses qui maintenant sont un peu mieux connues, où effectivement, on voit que dès le 19e siècle, hein, on a la fin du 19e siècle, on a des femmes anarchistes en Chine ou au Japon. Il y a eu quelques traductions de textes, y compris en français aujourd'hui, qui sont accessibles, hein, de ces militantes anarchistes. Aussi, bon, bah, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, en Amérique latine aujourd'hui, on a des collectifs qui vont se réclamer de l'anarcha-féministe. Donc, en fait, effectivement, c'était de montrer, un des aspects, c'était de montrer qu'effectivement, l'anarcha-féminisme n'est pas voilà, la question de ce qu'on va appeler anarcha-féminisme aussi pose problème. Mais en tout cas, là, le fait qu'il y ait eu des femmes militantes anarchistes qui ont revendiqué l'émancipation des femmes, c'est pas quelque chose qui serait limité à un anarchisme européen. C'est ça que j'ai voulu dire. Après, mon hésitation sur la question de l'anarcha-féministe, c'est qu'en fait, c'est une notion qui apparaît très récemment, en fait, dans ce que j'ai pu essayer de recouper. Je pense pas avant les années 1960, la fin des années 1970 aux États-Unis. Donc, quand on lit, voilà, une telle au début du XXe siècle était anarcha-féministe, au sens strict, c'est pas une notion que j'ai retrouvée dans les textes. Et même souvent, je n'ai pas retrouvé l'idée qu'elle se revendiquait comme féministe. Hein. Tout en connaissant les courants féministes de leur époque, elles en étaient plutôt critiques parce qu'elles l'associaient au féminisme libéral.
Et pour poursuivre, vous indiquez également des anarchistes français qui critiquent les féministes de leur époque.
Oui, alors pas seulement que ce soit des hommes ou des femmes, hein, c'est toujours sur le même problème, la place des élections. Alors ça, c'est quelque chose d'assez ancien, hein, la place des élections est quelque chose qui va faire, voilà, qui va être une ligne de fracture. Le fait de revendiquer des postes de pouvoir, hein, de dire que voilà, les femmes devraient pouvoir être elles aussi médecins, avocats, avocates, etc. Ça va aussi poser difficulté parce que en fait, ce sont des professions qui sont liées à la bourgeoisie. Ce qui va aussi être une source de différence, je pense, n'est pas forcément toujours très apparente, c'est que en fin de compte, les questions plutôt de sexualité, d'amour libre ou même de contrôle des naissances, c'est plutôt au début du XXe siècle quelque chose qui est présent dans les milieux anarchistes et moins présent dans les milieux féministes, hein, par quelques figures. Hein, par exemple, en France, on a Madeleine Pelletier qui s'intéresse au contrôle des naissances et qui a à la limite entre, enfin voilà, qui a fréquenté les milieux anarchistes et qui est féministe. Mais voilà, c'est pas. Alors que dans les années 70, cette question du contrôle des naissances, elle devient assez centrale dans le mouvement féministe. Donc voilà, c'est aussi des petits points comme ça qui m'ont intéressé, voilà, de voir en fait des choses qui parfois peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas tant quand on regarde bien, sans nos lunettes actuelles, les choses. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, au début du XXe siècle, voilà, telle ou telle personne se revendique comme féministe? Ou est-ce que voilà que revendiquaient vraiment les personnes là à cette époque-là? Et quand on essaye de regarder les choses sans trop projeter nous notre vision de ce qu'est le féminisme aujourd'hui, eh bien ou même de notre idée que l'anarchisme est nécessairement féministe, on s'aperçoit en fin de compte que voilà les choses sont pas si évidentes que ça.
Je m'entretenais il y a quelque temps avec l'une de vos collègues qui est Marion Ouaran-Lagan, qui a écrit un ouvrage dont le titre est Patriarcat. Et pour résumer de manière très brutale, en fait, elle explique dans son ouvrage que les techniques ont été inventées par les hommes pour les hommes et que les femmes, pendant toutes ces années, ont complètement été invisibilisées.
Oui, alors c'est une thèse qu'on trouve aussi chez Paola Tabé, qui s'est beaucoup intéressée à la question dont c'est une féministe matérialiste italienne qui a pas mal montré comment, effectivement, il y a une division dans l'usage des techniques et que, historiquement, les hommes ont eu accès aux techniques les plus sophistiquées. Hein, y compris par exemple tout ce qui est technologie de chasse, voilà, des innovations techniques. Et même encore aujourd'hui, hein, sociologiquement, par exemple dans tout ce qui est ménage, voilà, en général, utiliser les machines pour faire le nettoyage va être plutôt confié à des hommes.
Ouais. Mais toujours dans cet ouvrage, votre collègue explique comment, pendant la guerre, les hommes étaient au front et les femmes étaient utilisées à la réalisation des cartes à la fois topographiques, mais aussi à la collection de données. Et lorsqu'il fallait montrer des résultats de ces travaux, apparaissaient sur les photos uniquement des hommes et aucune des femmes qui avaient participé à la réalisation de ces travaux.
Bah oui, ça c'est un effet assez assez courant et assez étudié par les historiens, l'invisibilisation des femmes sur des découvertes, etc. Donc ça c'est des choses qui ont été assez bien montrées par les chercheuses féministes ces dernières années. Il y a eu un certain nombre même d'ouvrages à succès comme Les femmes grandes oubliées de l'histoire, voilà.
Ouais. Mais ça m'amène à une autre question, parce que cet auteur est installé au Canada, et donc dans votre ouvrage, je vous parle justement des milieux libertaires au Canada dans les années 2000.
Oui, alors ce qui m'a intéressé là, c'est de montrer en fait comment ce milieu canadien, qui a été assez bien étudié et documenté par des sociologues, comment ce milieu était beaucoup plus connecté hein, que le milieu français un certain nombre de revendications féministes et en particulier d'approches qu'on va appeler anti-oppressives hein, et qui vont être liées aussi à ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel aujourd'hui et qui sont des éléments qu'on voit plus actuellement en France mais qui étaient déjà présents voilà une décennie voire 15 ans avant, voilà, dans ces milieux féministes et puis libertaires canadiens. Oui.
Et un autre passage de votre livre, c'est l'anarcho-féminisme actuel, un courant traversé par les mêmes débats que le reste du mouvement féministe.
Oui, bah ça c'est ce qu'on a déjà, voilà ce que j'ai déjà un peu mis en lumière, c'est-à-dire que voilà, si on essaye un peu de synthétiser les choses, c'est qu'il m'est ni paru évident, enfin pour moi, ce n'est pas une évidence que l'on puisse accoler féminisme libertaire et anarcha-féministe à un certain nombre d'autrices, de militantes depuis le début du XXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pour l'émancipation des femmes, mais elles ne se revendiquent pas nécessairement comme féministes, voire elles ont des divergences avec le mouvement féministe de leur époque. Et ce que j'ai voulu aussi montrer comme difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si on a des militantes effectivement qui vont se dire féministes libertaires ou anarcha-féministes, pour autant, elles ne pensent pas toutes la même chose. Et en fait, on va retrouver dans ce milieu, voilà, chez ces militantes, les mêmes clivages qu'on retrouve dans le milieu, dans le mouvement féministe en général. Donc, il n'y a pas de spécificité de ce point de vue-là, des milieux anarchistes.
Et vous poursuivez en écrivant des femmes peu nombreuses dans les organisations anarchistes en France dans les années 2010. Comment vous expliquez cette faible participation?
Bah, de toute façon, le militantisme partisan, c'est-à-dire partidaire, hein, c'est ce que je rappelle dans l'ouvrage, c'est-à-dire le fait que les femmes militent dans des partis politiques, c'est un engagement militant qui est en général plus faible que, par exemple, les femmes dans le milieu associatif. Alors, ce que j'ai juste voulu souligner à ce moment-là, c'est que, bon, en fait, même si les organisations anarchistes ou libertaires politiques se revendiquent comme féministes hein, et vont avoir effectivement des positions féministes, en tout cas actuellement. Pour autant, ça ne veut pas dire que ces organisations seraient plus attractives que les autres pour les femmes. C'est-à-dire, il n'y a pas non plus là de spécificité. Des organisations anarchistes, politiques, anarchistes sur ces questions-là.
vous écrivez également, tout à fait autre chose, il est nécessaire de distinguer la foi religieuse et l'institution religieuse dans la capacité, dans la participation des femmes.
Pardon, vous pouvez me redire ce que
Vous
vous venez de dire?
écrivez,
J'ai pas bien entendu.
à propos de la question religieuse, vous écrivez,
Oui.
il est nécessaire de distinguer la foi religieuse et l'institution religieuse. Car,
Ah oui.
donc,
Oui,
un
parce que
risque
j'ai voulu
d'emprise, un risque
me.
d'emprise aux capacités d'auto-émancipation.
Alors, oui, donc là, vous faites référence à un chapitre, en fait, où, en fait, bon, dans l'ouvrage, il y a une première partie, en fait, qui est assez générale, hein, qui reprend, voilà, vous l'avez dit, il y a un chapitre historique, il y a un chapitre plus sociologique, il y a un dernier chapitre de conceptualisation plus théorique, qui essaye d'expliquer c'est quoi, voilà, le féminisme libertaire. Puis après, dans une deuxième partie de l'ouvrage, en fait, j'essaie de discuter ou de revenir sur des thématiques qui sont pas mal discutées, en fait, en particulier dans le mouvement anarchiste et y compris dans les mouvements féministes, et en particulier la question de la religion. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que, effectivement, bon, déjà, les anarchistes n'ont pas une position univoque, hein, sur cette question-là. C'est vrai que certains anarchistes vont mettre beaucoup en avant l'athéisme et vont considérer que, en fait, il est nécessaire pour se libérer, de se libérer de l'idée de Dieu, alors que on a d'autres anarchistes qui vont opposer en fait plutôt la foi. Qui est vu de manière intérieure à l'institution religieuse, donc ils vont critiquer, hein, c'est par exemple le cas de Tolstoï, l'institution religieuse, mais en considérant que la foi religieuse va constituer un rempart, en quelque sorte, contre les institutions, et en particulier que l'individu va trouver une force intérieure dans la foi pour résister à l'autorité temporelle. Aux autorités temporelles. Donc, ça rejoint un peu l'idée qu'on a chez un auteur d'anarchisme rénitent, c'est-à-dire l'anarchiste rénitent, ce serait celui ou celle qui serait capable de dire non, en fait, d'être dans des actions de désobéissance individuelle, d'objection de conscience, etc., face à l'autorité ou au pouvoir. Voilà, donc bon, voilà, c'est déjà un aspect. Et après, là aussi, les féministes, elles sont pas plus unifiées dans leur position sur la religion. Il y a là aussi une diversité de positions. Donc après, moi, j'essaye de montrer ces aspects-là. Et tout en étant, voilà, en montrant quand même un peu une critique, c'est-à-dire en me demandant, mais voilà, de cette critique un peu de l'aliénation religieuse ou de, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait garder aujourd'hui? Et il me semble que un élément qui pourrait d'avertissement qu'on pourrait avoir, c'est sur toutes ces formes de marchandisation en fait du féminisme d'un féminin sacré par exemple qui serait inspiré soi-disant de formes d'éco féminisme et donc voilà et d'ailleurs certaines écoféministes ne sont pas du tout enfin sont assez critiques elles-mêmes de cette volonté de vouloir retrouver en tout cas dans les pays occidentaux c'est différent. Dans des pays où, si vous voulez, les personnes sont déjà immergées dans toute une cosmogonie, etc. Mais c'est là ce qu'on va appeler là, enfin, ce qui peut apparaître comme plus problématique, c'est ce qu'on peut appeler des traditions réinventées, c'est de recréer une sorte de religion comme l'a fait le New Age aux États-Unis à partir des années 60-70.
Une de vos collègues enseignantes à Paris 8 m'indiquait hier soir que certaines de ses élèves sont empêchées dans l'environnement familial alors qu'elles travaillent normalement lorsqu'elles sont en cours à la fac. Est-ce qu'il vous arrive le même type de réticence ou d'empêchement familial?
Bah, moi, j'ai travaillé dans le 93 à l'INSPE du 93. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiantes, etc. J'ai aussi travaillé à Paris 8. Je n'ai pas voilà, été en contact ou vu de telles situations. Hein.
D'accord.
C'est pas moi ce que j'ai constaté. J'ai constaté une très grande diversité, par contre, des personnes dans leur voilà, dans leur rapport à la foi. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est la très grande diversité. Voilà, quand je discutais avec les personnes, il y avait vraiment des cas de figure vraiment très très diverses dans leur manière de se positionner par rapport à ces questions-là.
Ça nous amène à poursuivre à propos de l'éducation féministe, et notamment la naissance de la pédagogie féministe.
Alors oui, ben, c'est sûr que on a dans notre société, on tend à associer les femmes et l'éducation. C'est-à-dire que comme les femmes ont donc ce qui fait que effectivement il y a toute une réflexion des féministes sur l'éducation, mais c'est aussi un élément sur lequel il y a une grosse réflexion des anarchistes. Là aussi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer certaines difficultés d'articulation ou certains points de tension que je trouve intéressants. Par exemple, la place de la famille. C'est-à-dire que pour les féministes, souvent, la famille va être critiquée comme étant un lieu dans lequel on a une reproduction des normes de genre. C'est-à-dire que voilà, la famille, ça va être un peu déjà le premier espace d'apprentissage d'une éducation genrée, sexuée. Alors que on trouve chez certains anarchistes, au contraire, une valorisation de l'éducation familiale. Pourquoi? Parce que l'éducation familiale va apparaître comme un rempart à l'éducation étatique. Donc, le fait de, par exemple, aux États-Unis, déscolariser les enfants, mais même chez d'autres auteurs anarchistes du début du XXe siècle, on peut avoir cette interrogation de se demander s'il ne serait pas mieux de confier l'éducation aux enfants plutôt que à des institutions étatiques. Donc voilà, ça c'est un des points qui m'a intéressé, un des points de discussion qui m'a intéressé sur cette question.
Vous faites la distinction entre éducation libertaire et éducation anarchiste.
Ah oui, c'est une distinction que je reprends en fait d'une philosophe qui s'appelle Judith Suissa, une philosophe britannique qui a écrit un ouvrage sur l'éducation anarchiste. Elle considère que l'éducation anarchiste renvoie plutôt à des expériences de l'éducation qui s'inscrivent dans une forme d'anarchisme social. Alors que l'éducation libertaire tend à désigner des pratiques qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la tradition anarchiste. Par exemple, les libres enfants, les enfants de Summerhill, hein, par exemple, l'école de Summerhill de Alexander Neil, Neil, ben, voilà, prône une éducation qui est très libre, mais il n'a aucun accointance avec le milieu anarchiste. Donc en fait, ça rejoint un point que je mets en avant dans l'ouvrage, c'est-à-dire que la notion de libertaire, à un moment, elle prend une extension qui est plus large en fait que la notion d'anarchiste. En fait, anarchisme et libertaire sont synonymes au début, mais il y a un certain moment, progressivement au cours du XXe siècle, cette notion, en fait, surtout à partir, je pense, des années 60-70, va en fait avoir tendance à être interprétée de manière plus large que simplement le fait de désigner des positions anarchistes, en fait.
Dans votre ouvrage, je vous indiquais la liberté individuelle, pardon, la liberté individuelle dans une société traversée par des rapports sociaux d'oppression. On en revient à l'oppression, mais là, j'imagine que vous parlez d'oppression masculine.
Alors en fait, je parle de différents types d'oppression. Alors quand je ça c'est un peu un point assez central de mon ouvrage, c'est-à-dire que quand j'essaie de conceptualiser la notion de féminisme libertaire, j'essaie de montrer que en fait, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anarchisme chez Proudhon et chez des auteurs qui vont lui succéder. C'est défini comme une critique d'une autorité verticale. Donc l'autorité du père sur ses enfants, du gouvernant sur les gouvernés, du patron sur les employés. Donc on est dans une autorité qui va de bas en haut. Donc c'est beaucoup ça qui est critiqué en fait, hein, c'est principalement ça, qui est un peu distinctif de l'anarchisme. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, les critiques féministes, elles viennent mettre en avant, en fait, en lumière un soupçon. C'est-à-dire que les féministes sont aperçues, en particulier, par exemple, il y a un ouvrage qui s'appelle, enfin, un texte qui s'appelle La tyrannie de l'absence de structure de Jo Friedman, que, en fait, dans des collectifs qui pouvaient être horizontaux, de fonctionnement horizontaux, donc où il n'y a pas de verticalité, qui pourrait donc apparaître comme ayant un fonctionnement libertaire. En fait, il pouvait y avoir des rapports de pouvoir, et pas seulement des rapports interpersonnels, des relations de pouvoir, mais vraiment des reproductions de rapports sociaux de pouvoir, liés, par exemple, bah, si vous êtes dans un groupe de femmes qui fonctionne de manière complètement autogérée, etc., vous pouvez avoir quand même des inégalités de classe sociale, de niveau d'études, etc. Quand bien même la prise de décision sera en apparence égalitaire. Donc, en fait, ce qui m'a amené à plutôt utiliser que la notion de principe d'autorité, la notion d'oppression pour désigner ce que pourrait être voilà, critiquer un féminisme libertaire. Sachant que la notion d'oppression, là aussi, il faut la conceptualiser. Et là, je renvoie en fait aux travaux d'une philosophe qui s'appelle Marion Iris Young, qui est une philosophe féministe américaine, qui distingue cinq dimensions dans l'oppression. C'est-à-dire que pour elle, l'oppression, inclut des différents éléments comme l'exploitation, comme chez les marxismes, comme la marginalisation, etc. Donc il y a différents éléments qui vont composer l'oppression. Et après, quand je dis qu'en fait la société est traversée de rapports d'oppression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les rapports de classe ou de genre, il y a aussi d'autres types de rapports comme des rapports de racisation. C'est-à-dire, voilà, ça c'est. C'est et donc, à partir du moment où on admet qu'il y a ces rapports d'oppression, ça pose de grosses difficultés, hein, pour réussir à penser la question de la liberté individuelle, qui est assez centrale chez les anarchistes. C'est-à-dire, dans quelle mesure on peut encore penser, dans ce cas-là, que lorsque nous prenons des décisions, ces décisions, elles émanent véritablement d'un individu libre. Et ça a des impacts sur un certain nombre de débats féministes, c'est-à-dire voilà, la question de la prostitution, par exemple, ou d'autres débats, c'est-à-dire ou la question qui est assez centrale, la question du consentement. Donc, à quel moment peut-on savoir, si on admet que, voilà, je vais prendre un exemple qui n'est pas spécifiquement féministe, mais qui va voilà, éclairer ce que je veux dire. Si on prend un travailleur qui fait un contrat de travail, voilà, il est amené à signer un contrat de travail avec un patron, bien sûr, la théorie libérale, elle va dire, hein, le libéralisme économique y compris, vont dire en fait le travailleur, c'est la loi de l'offre et de la demande, et le travailleur contractualise librement avec le patron. Bien sûr, l'analyse marxiste, elle dit ben, le prolétaire, il vend sa force de travail parce qu'il n'a pas d'autres moyens pour survivre que de vendre sa force de travail. Donc, à partir du moment où on admet qu'il y a ces rapports d'oppression, ces rapports sociaux d'oppression, qui pour moi incluent l'exploitation, comment on va réussir à penser quand même ce qui est assez distinctif, par exemple, de l'anarchisme, par exemple, par rapport aux autres courants, à d'autres courants socialistes comme ceux plutôt de tradition marxiste, qui est savoir la question de la liberté individuelle. Donc ça, c'est un point qui est assez important dans l'ouvrage, où j'essaye de déterminer certains voilà, éléments de réflexion par rapport à ce problème philosophique.
À propos du mouvement MeToo, qu'est-ce que ce mouvement a apporté au féminisme de manière un peu générale, mais aussi au féminisme anarchiste ou libertaire?
Alors, il me semble que, voilà, alors déjà, moi, ce qui m'a surprise, ce que j'explique et j'essaie d'expliquer aussi dans l'ouvrage, c'est que, en fait, les féministes ne sont, enfin, les femmes, on va dire, et parfois celles qui sont qualifiées de féministes libertaires, y compris dans la presse, ne sont pas unanimes sur cette question du. Vous avez des personnes qui sont, voilà, pro-sexe, qui vont considérer qu'en fait, MeToo, c'est le retour du puritanisme, etc., d'une certaine forme, voire il y a une certaine incompréhension pour certaines femmes qui ont revendiqué une certaine liberté sexuelle que ce mouvement MeToo. Inversement, bon, on le sait bien, il y a une, comment ça s'appelle, une autre conception hein, qui salue ce mouvement féministe, qui salue ce mouvement comme étant un mouvement qui a mis en avant justement l'existence d'oppression que vivaient les femmes et qui n'était pas assez visibilisée, c'est-à-dire toutes les violences faites aux femmes. Alors après, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que de mon point de vue, le mouvement MeToo n'est pas un mouvement contre la révolution sexuelle, contrairement à ce que affirment certaines voilà, autrices ou auteurs. C'est un mouvement qui critique une certaine conception qui s'est imposée hein, de la révolution sexuelle, c'est-à-dire une révolution pensée du point de vue hein, des hommes, qui a été en fin de compte le fait que dans les années 70, en fait, la révolution sexuelle telle qu'elle a été sans doute pensée, ça a été celle d'un libre accès des hommes au corps des femmes. Et donc, ça n'a pas été pensé du point de vue des femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas une révolution, même si, voilà, et en plus, bon, voilà, il faudrait montrer que ce n'est pas forcément la même chose, mais d'un certain côté, si vous voulez, par exemple, un mouvement. En mai 68, comme le mouvement du 22 mars, qui revendique que les garçons puissent aller dans le dortoir des filles. Voilà, et après, dans un contexte post-MeToo, on pourrait se demander ce qui s'est passé dans les dortoirs des filles, mais bon. Voilà, c'est pas, à mon avis, les mêmes racines idéologiques et théoriques que la revendication. De l'accès à la contraception pour les femmes et de l'accès à l'avortement. Donc dans les deux cas, en fait, on a amalgamé en fait des revendications autour de la question de la liberté sexuelle qui était en fait pas forcément dans un c'était le contrôle des femmes par les femmes de leur corps voilà, de la procréation. Et dans un autre cas, c'est la possibilité de se libérer de carcans religieux et moraux dans la sexualité. Hein. C'était un peu, je pense, en fait, des mouvements qui n'ont pas exactement la même racine, mais qui ont été un peu amalgamés parce qu'ils ont, ils ont lieu au même moment. Donc, il y a des raisons hein, pour lesquelles ils ont lieu au même moment, mais ils ne sont pas, à mon avis, philosophiquement équivalents. Ne disent pas la même chose d'un point de vue philosophique.
Est-ce qu'il existe des sources LGBTQ?
Alors, les questions qu'on va appeler queer ou les questions LGBT, etc.,
Les trans.
voilà, de manière générale, ou LGBT+, quoi. Donc, Bah, bon, il y a des choses qui sont documentaires, hein, sur lesquelles je ne reviens pas dans l'ouvrage, c'est-à-dire l'apparition d'un mouvement homosexuel révolutionnaire, voilà, avec les Gouines Rouges, le phare, dans les années 70. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui émerge au même moment. Après, moi, ce qui m'a intéressé plus spécifiquement dans l'ouvrage, c'est toute une controverse entre les milieux queer et les milieux anti-industrialistes et ces derniers opposant au mouvement féministe et au mouvement queer leur constructivisme social qui conduirait en fait à comment dire, à justifier en fait une société hyper technologisée, que ce soit par exemple par l'industrialisation des naissances, par le recours à la PMA, à la GPA, etc. Alors, bon, je remets en question un certain nombre d'arguments en fait des milieux anti-industrialistes. D'ailleurs, moi, une des choses qui me surprend le plus, c'est que ces critiques, elles sont très concentrées, par exemple, y compris voilà, sur l'amalgame du transhumanisme et du queer, par exemple. Les transhumanistes, c'est un courant voilà, qui prône l'augmentation de l'être humain par la technologie, pour faire simple et en simplifiant. Alors que, par exemple, on voit qu'Elon Musk, lorsqu'il essaye de faire passer effectivement des idées transhumanistes, il va plutôt dire qu'en fait ces technologies vont être utiles aux personnes handicapées, hein, en situation de handicap. Donc en fait, c'est assez étonnant cette hyper-focalisation en fait, des milieux anti-industrialistes sur les personnes queer, et, alors qu'ils pourraient avoir les mêmes arguments sur les personnes en situation de handicap. Donc pour moi, ça montre que derrière ces critiques, en fait, il y a quand même quelque chose qui peut être de l'ordre de la transphobie, pourquoi cette focalisation dans ce cas-là sur ce groupe-là minoritaire. De même, on pourrait avoir d'autres contre-arguments. Hein, il y a plein de femmes qui, d'autres pères, enfin voilà, le recours à des biotechnologies, voilà, on va le retrouver aussi pour d'autres groupes que les personnes queer. Donc ça aussi, c'est un élément que je discute dans l'ouvrage.
Nous arrivons au terme de notre entretien. Il vous
Très bien,
reste des
merci.
mots de la fin. Il vous reste des mots de la fin. Il y a certainement des choses que vous avez
Bah,
eu en tête.
en fait, moi, le mot de la fin est ce qui est assez important, je dirais, le plus central de l'ouvrage, parce que c'est peut-être comme, voilà, on a discuté de plein de petits points. Moi, surtout, ce dont je m'inscris en faux à travers cet ouvrage, c'est sur une vision du féminisme libertaire qui serait libérale. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas penser un féminisme libertaire sans prendre en compte l'existence de rapports sociaux d'oppression qui ont une base matérielle d'exploitation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais à partir de ce moment-là, pour autant, j'en tire pas les mêmes conclusions nécessairement que des personnes. Parce qu'il y a toute une controverse, hein, on le sait, dans les milieux anarchistes qui considèrent que voilà le féminisme, certains courants du féminisme, le queer, voire les théories intersectionnelles, seraient la porte ouverte au post-structuralisme, à des positions antimatérialistes sur le plan, c'est-à-dire qui abandonneraient la critique de l'économie politique, alors que je défends dans mon ouvrage quelque chose de complètement opposé à ça, c'est-à-dire que pour moi, le féminisme libertaire tel que je le pense, il a vraiment une base matérialiste de critique sociale. Mais ça n'aboutit pas, voilà, pour autant à aller tenir des propos transphobes comme on l'entend par ailleurs. D'ailleurs, je ferai une parenthèse, il existe des courants transmatérialistes et qui s'appuient d'ailleurs sur des positions sur le féminisme matérialiste. Donc, Voilà, c'est un peu aussi par rapport à ces débats-là, qui, à mon avis, viennent d'une méconnaissance en fait d'un certain nombre de courants. Par exemple, l'intersectionnalité, dans son origine, qui est le black féminisme, ce sont des courants qui viennent plutôt d'approches marxistes, hein, comme chez Angela Davis, et qui n'ont pas des racines post-structuralistes. Pareil, Bell Hooks, qui est une autrice qui est beaucoup traduite en ce moment. Ne s'est jamais revendiqué du post-structuralisme. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de fantasmes dans les milieux anarchistes, je crois, sur un certain nombre de pensées féministes.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je rappelle le titre de votre livre, Le féminisme libertaire, publié par les éditions Le Cavalier Bleu au mois de mai 2024. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.